Le samedi 11 novembre aura lieu le concours KGP, organisé par l'ESGUCAM, le plus grand concours de gestion de projet de l'Est du Canada. Inscrivez-vous au www.concourskgp et faites partie des 160 participants à cet événement d'envergure. Pour sa 8e édition, le comité organisateur vous prépare une journée qui met de l'avant le partage et le transfert de connaissances en gestion de projet. Ne manquez pas votre chance d'aller faire valoir votre professionnalisme et vos compétences. Pour plus d'informations sur le concours, visitez www.concourskgp.ca.
T'es déjà allé triper au festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle! Le cabaret festif de La Relève vaut les concours du festival et de retour pour une 8e édition. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix. Plus de 15 000 $ en prix et en bourse, une visibilité à la hauteur de ton talent, la chance de te produire chez les meilleurs diffuseurs au Québec et la plus belle route vers ta carrière de rêve. Visite le www.lefestif.ca/cabaret et présente ton projet jusqu'au 22 novembre. Le cabaret festif de La Relève, une présentation de SiriusXM et Derry Télécom.
Coup de cœur francophone 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara Dion, À la Claire Ensemble, Violette Pie, Fudge, Le Wistin Band, Dilarama, Emmanuel Wooper et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10 $ prix régulier, 7 $ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes les auditrices et à tous nos auditeurs. À tous nos auditeurs, excusez-moi. Je suis un peu enrhumé aujourd'hui, je sais pas pour vous. Fait froid, hein? Premier jour de l'hiver.
Ah oui, parlons météo aujourd'hui.
Un petit moins 6 degrés.
Météo, s'il vous plaît.
Hier soir, il neigeait. Je sais pas si vous avez
quoi?
Vu. Neige fondante.
Non.
Dans mon quartier, la petite patrie.
Ouais, moi aussi, il y avait de la neige.
Il y en avait ce matin. Il y en avait ce matin.
Ce matin, mais
j'étais où?
Dans ce bar.
C'est une grosse semaine, hein. Grosse victoire électorale en début de semaine, Émilien.
Oui, aussi. C'est ça, faut-il le souligner, Valérie Plante, qui est notre première mairesse de l'histoire. Ça a pris 375 ans avant que les hommes se réveillent que ce serait tellement mieux une femme à la tête de la ville, mais ça, c'est un autre débat.
D'ailleurs, c'est les hommes, c'est aux hommes à qui on doit la victoire de Valérie Plante, c'est-tu ça que tu dis?
Du tout.
La pente est glissante.
Je dis juste que c'est aux hommes qu'on doit le blocus.
OK, on va arrêter cette question. On
va arrêter cela, mais juste avant de continuer le sujet, juste pour faire le rappel d'une dernière émission sur les élections électorales, on peut quand même souligner que à la dernière élection, il y a eu
J'ai gagné mon pari.
Oui, t'as gagné ton pari.
Oh, ah, bravo, Étienne.
C'est pas ça le sujet?
Non.
Ah, merde.
Non. J'allais plus dire, en fait, qu'on a atteint quand même un record au niveau de la représentation féminine dans les élus, que ce soit la grandeur du Québec, même à Montréal, on était déjà une ville paritaire, mais là, on a eu de plus en plus de femmes qui accèdent au poste de mairesse d'arrondissement, de conseillère de ville, en plus de la mairie de Montréal. Par contre, on peut faire un petit bémol sur et faire un lien vers le sujet qui nous intéresse aussi. Qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la représentation de la diversité. On voit qu'il y a quand même très peu de jeunes parmi le conseil de ville qui sont issus d'une minorité visible ou d'une minorité ethnique. On a salué aussi quand même la première femme autochtone à être élue au conseil de ville, et c'est dans mon arrondissement de Verdun, comme conseillère de ville de Verdun dans Champlain-Île-des-Sœurs. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire encore pour encourager la diversité.
Et une autre première canadienne aussi, le nom de la petite municipalité m'échappe, mais la première femme transgenre qui accède à un poste élu de maire.
Exact.
De mairesse, en fait. Donc,
ça aussi, c'est une première canadienne au Québec.
Des belles nouvelles!
Des belles nouvelles. Donc, ben, écoutez, je pense que j'ai même pas nommé l'émission. Vous écoutez la photo média? Hein?
Mais tout le monde le sait quand même.
Après ce
voyons.
Préambule, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui sont fidèles au poste. Donc ce soir à l'émission, nous avons Marie qui vient de nous faire une très belle introduction sur les élections municipales. Marie Chabot-Jensen, nous avons Étienne Tardy-Paradis, Camilla Rodriguez-CA. D'ailleurs, je voulais nommer vos trois noms en premier parce que vous avez les trois noms de famille composés. Mais ça, c'est un...
Pas mal.
C'est juste un petit détail que je voulais relever.
On est des milléniaux ou on l'est pas?
Mais en fait,
c'est tout ce que j'ai à dire.
En fait,
ah bon.
Il y a Tessie Jean-Paul aussi, qui a un nom de famille composé. Faut-il le rappeler?
Non, il n'est pas composé, c'est un seul nom.
Oui, mais il y a un tiret.
D'accord, il y a juste un trait d'union, là. C'est juste ça que je voulais dire.
Oh, mais shut the fuck up.
Mais en fait, techniquement, même si c'est un seul nom, ça serait quand même un mot composé parce que, comme arc-en-ciel, bah, arc-en-ciel, c'est quand même un mot composé parce qu'il y a plusieurs parties dans la définition comme
mon
linguistique
coloc,
de la chose.
Mon coloc fait des études en linguistique, donc on aurait pu l'inviter pour parler de ce sujet-là, mais c'est pas ça le sujet de notre émission ce soir. On va parler de racisme systémique, on va parler de toutes sortes de sujets qui englobent cet élément. J'ai oublié de présenter Myriam Bernet,
sûr. Oui, c'est, écoute, belle ambiance.
La dernière, mais non la moindre. Bienvenue à l'émission. et Emilien Roscanou, bien sûr, à l'animation. Mais ça, c'est le moins
toujours
important.
C'est toujours bon de s'autonomer.
C'est ça. Il n'y a personne qui me nomme jamais à cette émission-là. Il faudrait bien que quelqu'un commence.
Est-ce qu'il faudrait qu'on purge nos énergies à la photo média?
Je pense que oui. Là, on a toutes des grosses semaines. Là. On a toutes trois jobs, puis
à peu près
14 cours. Là. Fait qu'on est comme,
Et beaucoup de bénévolat. C'est ça qui nous amène tellement de perspectives nouvelles autour de la table. Quand
et qui
même.
Nous rend pauvres. Mais ça, c'est un autre. OK. Donc, on va commencer tout de suite avec Étienne. Toi, tu vas nous parler de l'utilisation du racisme systémique par le politique et les médias. Dieu sait que c'est pas mal utilisé à toutes les sauces et que beaucoup de formations politiques d'ici et d'ailleurs s'accaparent ce terme-là ou ces termes-là pour se faire du capital politique.
Oui, absolument. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les questions donc du racisme systémique. Alors, d'emblée, je dois mettre mes gants blancs et de fait annoncer ma position de privilégié. Je suis un Québécois blanc et privilégié car je suis assuré que l'histoire représente de manière majoritaire et positive mon groupe. Car je suis assuré de ne pas être accusé de se regrouper en un ghetto qu'on vit majoritairement avec des blancs. Car je suis assuré de ne pas subir de contrôle d'identité par la police sans raison apparente. Car je suis assuré de me sentir bienvenu et normal dans la plupart des situations liées à la vie publique, institutionnelle et sociale. Bon, mis à part si je vais à un congrès des jeunes conservateurs en Beauce. D'ailleurs, est-ce que ça existe des jeunes conservateurs?
Bref, ça existe en Beauce, justement.
Ouais,
ouais,
ça existe.
Ouais, ça envoie une disparition. Bref, il est aussi important de préciser que je ne peux pas comprendre ce qu'une personne racisée vit jour après jour au Québec. Le regard de l'autre sur ma personne, les questions naïves sur mes origines qui, à force de répétition, ne sont plus si naïves, les références multiples sur ma couleur de peau et j'en passe. Donc, quelle est ma place dans le débat sur le racisme systémique? Personnellement, elle est très claire. Il s'agit de dénoncer tous ces politiciens et politiciennes qui sont prêts à se faire du capital politique sur un tel sujet, ainsi que les médias qui entrent dans la danse. L'utilisation du racisme systémique dans un calcul politique est tout simplement dégueulasse et irresponsable. Malheureusement, il s'agit d'une stratégie bien utilisée et réutilisée. En ce sens, j'aimerais faire un doigt d'honneur bien senti à une personnalité politique, Monsieur le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Je pointe mon doigt dans votre direction car vous avez vous-même fait dérailler le processus de création de la consultation sur le racisme systémique. Un déraillement largement attribué à la politisation du sujet et de l'ingérence de votre personne dans le développement du dossier. D'ailleurs, pourquoi cette consultation n'a pas vu le jour dans la première année de votre mandat, puisqu'il s'agit d'un travail qui s'étale sur des années. D'autant plus que la Charte des valeurs du Parti québécois qui vous précédait avait réanimé les dites braises de l'intolérance. Pourquoi attendre quelques mois avant l'élection de 2018? Pourquoi changer de cap après la déroute électorale dans Louis Hébert?
Pourquoi?
Tout ça pue le calcul politique, tout comme une partie de la loi 62. Constat horrible en sachant qu'une telle consultation peut être hautement bénéfique pour l'ensemble du Québec. Si l'Ontario l'a fait, pourquoi ne pourrions-nous pas?
En tant que premier ministre, votre devoir est de résoudre les problèmes sociétaux ou du moins de ne pas les attiser. Monsieur Couillard, est-ce que vous avez conscience que le principe de racisme systémique touche à un ensemble de structures gouvernementales dont vous êtes la tête dirigeante? Est-ce que vous avez conscience qu'il y a des actions politiques découlant de l'État québécois et qui systématise et perpétue la répartition inégale des privilèges entre personnes blanches et personnes de couleur? L'action qui suit l'indignation doit être faite dans un esprit constructif et non de calcul politique. Mes accusations sont très certainement en matière à débat. Cela dit, mon doigt reste dressé devant un premier ministre qui lui-même ne sait pas se dresser devant l'injustice. Mmh. Évidemment, Philippe Couillard n'est pas le seul politicien à utiliser des sujets polarisants pour se faire du capital politique, mais il est le seul premier ministre du Québec. Voilà pour la classe politique, mais il me reste un autre majeur qui se tient bien droit devant une certaine droite idéologique. Celui-là s'adresse aux médias négationnistes qui refusent de voir qu'il existe à tout le moins un problème de racisme au Québec. Comme partout ailleurs, certes, mais bien présent quand même. Le nord de mon doigt cible particulièrement TVA Nouvelle et sa couverture médiatique et surtout certains animateurs. Après une petite partie de chasse, le célèbre panéliste Luc Lavoie affirmait « Je ne suis pas raciste, ma société n'est pas particulièrement raciste, mes voisins ne sont pas racistes. Deux choses l'une, tu es aveugle ou juste con. Ou peut-être que tu aurais juste besoin d'être éduqué sur la question. Éducation qui pourrait te permettre d'apprendre que le taux d'emploi chez les immigrants racisés entre 25 et 54 ans était de 71,8% comparativement à 83,2% pour les Québécois natifs. D'apprendre que le taux de chômage des immigrants racisés est supérieur au reste de la population avec un taux de 16,6% pour ceux arrivés depuis 5 ans ou moins, alors que pour la population native, le taux s'élève à 6,1%. En gros, Lola Alumbasa aura beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi, contrairement à Luc Lavoie, et ce, même si ce dernier affirme en ondes que les indépendantistes devraient être chassés comme des écureuils. Peut-être que tu n'es pas raciste, peut-être que ta définition du racisme est très limitée, tout comme ton éducation générale. Alors, lorsque tu me dis que ma société n'est pas raciste, je me pose des questions. Peut-être qu'elle n'est pas raciste, ou peut-être qu'elle partage une vision limitée de la définition de racisme, d'où l'importance de consulter, de se consulter. Une consultation, c'est le moyen de répondre à ces questions. D'ici là, je ne m'inquiète pas pour toi, Luc Lavoie, car je sais que tu es voisin, que tes voisins ne sont pas racistes, donc tu ne peux pas être raciste. Votre honneur, le verdict est tombé. La stupidité est clairement une caractéristique humaine. Merci.
Est-ce que je peux faire un petit mini commentaire?
Absolument.
Les statistiques qu'on prend, on les prend beaucoup. Tu sais, souvent, les immigrants, minorités racisées, puis les Québécois natifs. Mais comme c'est comme dire que les Québécois natifs seraient automatiquement non racisés.
J'ai pensé exactement la même chose.
Dans le sens que, je pense qu'avec les personnes qui sont immigrantes racisées, il y a un double problème. Tu as le problème de l'immigration, de la non-reconnaissance des diplômes, entre autres. La difficulté, par exemple, des fois, de parler français pour certains, de parler anglais, qui peut être un grand frein à l'emploi. Mais aussi, si on parle juste carrément des Québécois natifs ou tu sais, tout le monde qui se décrit comme Québécois, eux qui font passer la minorité visible puis eux qui font pas passer la minorité visible, on voit directement la minorité interculturelle. Je suis complètement d'accord avec qu'est-ce que tu as dit, mais je veux dire, ça serait facile pour des personnes d'instrumentaliser tes chiffres en disant « Ah, ben c'est un problème d'immigration », quand, à mon avis, c'est pas juste un problème d'immigration.
Non, absolument pas, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment... c'était sur les nouveaux immigrants qui n'avaient pas encore la citoyenneté.
OK.
Donc, ça, je l'ai pas précisé, mais...
Tout ça pour dire quand même que je pense qu'il reste qu'il y a un problème aussi, juste quand on pouvait comparer aussi à CV égal, selon le nombre de personnes qui, avec une connotation étrangère non francophone ou non anglophone, recevaient des offres d'emploi ou étaient convoqués en entrevue, on le voit beaucoup aussi. Là.
Puis par rapport aux chiffres qui concernent le chômage, il faut voir quel type d'emploi sont pris par les personnes.
J'allais dire la même chose.
pour les personnes immigrantes aussi, c'est pas forcément des emplois très bien payés.
C'est ça, parce que quelqu'un qui arrive ici avec un diplôme d'ingénierie peine à se trouver un emploi dans
exactement,
ce domaine
ouais.
Parce que les reconnaissances sont pourries, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de changer quoi que ce soit, puis... Après ça, on se trouve un emploi, pas du tout dans son domaine.
Ou... Exactement. C'est tellement insurgeant quand tu penses que le système... Là, je vais m'écarter puis je vais me taire après, mais c'est tellement insurgeant quand tu réalises que le système d'immigration canadienne est un des plus difficiles au monde. Donc, on demande le plus de diplômes, de reconnaissance. Puis on... Oui, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais il y a des réfugiés qui vont me demander l'asile. » Ça, c'est un autre problème. Ça, mais c'est une autre types d'immigration. Mais quand on parle d'immigration normale, on vend souvent des tonnes et des tonnes de diplômes. Puis après ça, quand les gens viennent ici, ben on leur dit, ben, ton diplôme, ben, c'est bien beau, ça te donne une porte d'entrée, mais ben, tu peux rien faire avec.
Non
d'autant plus que... tes compétences, mais on fait rien.
Ouais, d'autant oui, plus qu'on arrive avec des personnes dans la société qui arrivent de façon totalement... tu sais, elles arrivent, elles ont été éduquées par un autre pays. Les milliers de dollars que cet État-là a dépensé dans l'éducation, dans les soins de santé, dans la qualité de vie de la personne qui migre, on les a pas dépensés, nous, au Québec. On arrive, pouf, avec une
exactement,
personne,
oui.
oui, dans laquelle il faut investir pour dans certains domaines, mais qui a des diplômes d'éducation supérieure, qui a... pas bénéficier de notre service, de notre système mm-hmm. de santé toute sa vie. Tu sais, mm-hmm. elle arrive totalement... tu sais, c'est comme...
elle peut directement injecter, en fait, son savoir dans le système québécois, en fait. Puis je pense que la chose qui est très dommage avec ce changement de cap-là aussi de la consultation sur le racisme systémique, c'est le fait que, finalement, on se rend compte que ça inclut pas grand monde. Tu sais, c'est ça qui est un peu très, très bizarre aussi, parce que tu te rends compte, puis tu sais, moi j'en ai beaucoup parlé sur l'industrie du taxi, comment que cette problématique-là est totalement fondée, justement, sur le racisme systémique qu'on n'est pas capable de voir. Et puis, la chose qui est très dommage encore, c'est que bon, ce nouveau forum qui se dit qui veut comme plus d'une valeur plus économique d'intégrer les immigrants au marché du travail, mais ça veut absolument rien dire là, dans le sens que tu peux être né ici et avoir des problèmes d'intégration sur le milieu du travail. Tu peux être d'origine autochtone et puis avoir, tu sais, dans le sens que c'est totalement quelque chose qui ne sert à rien. Et la chose qui est dommage, c'est que oui, c'est de l'instrumentalisation, mais dans un contexte où que finalement les gens, ils, peut-être de l'autre côté ou de l'autre côté, ben tu sais, tout ce qui est fait n'est pas fait de bon cœur, entre guillemets. Donc
ben non, c'est ça. Moi, je pense que tous les partis politiques ont ce problème-là, c'est qu'ils instrumentalisent énormément cette question-là. Puis je pense que pourquoi ça foire autant en ce moment, cette consultation-là qui devient plus une commission d'enquête, mais qui devient un forum, puis il y a plein d'organismes qui claquent la porte. Moi, je pense que aussi ça dénote une incompréhension même de la part des gens qui ont voulu mettre cette consultation-là en place au gouvernement, qui se sont dit, il y a des gens qui la demandent, il y a des gens qui la veulent, on la met en place.
Ouais.
Mais eux-mêmes n'étaient pas au courant, comprenaient pas nécessairement
les enjeux.
Ben non. Puis comprenaient pas qu'est-ce qu'ils allaient déclencher.
Mais d'ailleurs, en fait, vas-y, mais je pense qu'il y a comme un point après que je voudrais vraiment amener.
Vas-y, okay. Camilla.
Mais je trouve que c'est vraiment facile de dire que nos élites ont besoin d'être éduquées. C'est des gens très instruits, puis c'est des gens qui ont accès à une quantité phénoménale d'informations là, pour en arriver à la commission sur la discrimination et le racisme et la discrimination systémique, son ancien nom. Il y a eu énormément de discussions, de tables rondes avec les groupes de pression actuels, les mouvements sociaux actuels qui demandaient cette commission-là. Donc, c'est faux de dire que nos dirigeants sont pas au courant ou qu'ils sont pas assez informés. Tu sais, à un moment donné, c'est des décisions qu'ils prennent de pleine connaissance de cause. Puis, deuxièmement, je voulais dire aussi que... qu'est-ce que j'allais dire? j'ai perdu mon fil, mais Marie, vas-y.
Mais peut-être, est-ce que... OK, excuse-moi, vas-y, Marie. Oui. Excuse-moi.
On prend notre tour de parole. Mais en fait, je pense que, tu sais, tout peut être aussi résumé. Des fois, je pense que le problème, il y a aussi beaucoup du poids des mots puis la compréhension des mots.
Ouais.
Tu sais, juste aussi, à la base, comme quand je fais de l'intervention sur le propos d'Étienne, c'est comment... La plupart des gens, je ne parle pas des élites, parce que les élites, c'est un peu leur devoir de devoir s'informer. Là, quand on met des gens en place pour justement avoir un regard plus aiguisé puis de c'est consulter ça, ouais. les gens, c'est assez différencier immigration, allophone, minorité visible, minorité ethnique, c'est des choses totalement différentes avec des poids différents. Puis quand on regarde la commission, changer le mot de racisme systémique à discrimination ou à valorisation de la diversité pour l'intégration, on va beau vouloir nous dire que c'est la même chose, c'est justement ne pas faire attention au poids des mots. Quand on disait le mot racisme systémique, on était obligé de l'expliquer. On était obligé de créer un, d'avoir un processus éducatif de vulgarisation de qu'est-ce que c'est le racisme systémique. Mm-hmm. Parce que y a beaucoup de problèmes à travers, je pense particulièrement comme moi, par mes origines blanches, franco-françaises, franco-anglo mélangées, là. Mm-hmm. Pour dire que le racisme, c'est juste comme voir quelqu'un sur la rue d'une autre couleur que toi puis de lui crier des bêtises, quand le racisme, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça, pour comprendre cette démarche-là, j'ai l'impression que avoir le terme racisme systémique enclenchait cette discussion-là, tandis que là, quand on parle de valorisation de la diversité, on voit ça comme un bonus, comme un privilège, plutôt que de voir ça comme un besoin puis une nécessité pour les communautés que ça l'affecte en tant que telle. Un peu comme dans l'idée que, quand on parlait de la culture du viol, ça faisait mal d'entendre le mot culture du viol, mais à force, on est obligé de l'expliquer, puis expliquer c'est quoi les sous-jacents, puis c'est quoi la base du problème.
Non, effectivement, mais tu sais, la chose que je trouve très dommage avec ça, c'est que pourtant, on a un exemple très, très clair, tu sais, de racisme systémique avec les femmes et les jeunes filles disparues autochtones, tu sais. Après un an de commission d'enquête, genre, on peut-tu dire que comme, il y a comme rien, genre? Puis, en même temps, oui, je comprends que ça peut être... tu sais, il faut vulgariser, mais dans le sens que le problème, il est là, il est présent, puis je pense qu'on est capable de montrer des exemples assez facilement, tu sais, avec ça. Puis c'est sûr que je pense que Camilla aussi t'a touché un point dans le sens que est-ce que c'est un manque de volonté de la classe dirigeante de pas vouloir voir le problème, ou c'est un manque de où qu'on est, c'est un manque de compréhension, c'est un manque
ou une décision prise en toute conscience.
Parce que je trouve pas ça normal. Tu sais que tu vois pas le problème, et puis on parle de tu sais comment ça qu'il y a plus de femmes autochtones sont disparues qu'une femme blanche. Tu sais, comme il y a quelque chose quelque part qu'il faut, en tout cas, qu'il faut disséquer, en fait.
D'où le calcul politique, dans le sens que M. Couillard, lorsqu'il va à table avec ses éminences grises, ils vont se dire, bon, OK, les élections arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut nous rapporter? Quel dossier devrions-nous mettre de l'avant? Tout ça, c'est prémédité. Oui, ces gens-là sont éduqués, mais quelle éducation? Il y a des avocats. Si moi, je regarde le cas de l'ancien ministre de l'Environnement, M. Hortel, placer cet homme-là à l'environnement, c'était peut-être pas la meilleure des choses au monde.
Ou même ben, là, il n'est pas à l'immigration, là.
Mais maintenant, il a changé. Mais il a été pendant 3 ans.
Okay.
Le mec, il connaît absolument rien, tu sais.
Ah, c'est lui qui...
C'était cafouillé après cafouillé.
Donc, c'était juste un homme d'affaires comme n'importe lequel, puis aucune compétence spéciale en environnement, puis pas plus en immigration.
C'est clair.
Mais fait important à noter, c'est le député de Bio, autrement dit, le quartier Saint-Michel à Montréal. Puis c'est vraiment important. Puis j'aimerais peut-être, si je peux me permettre, clore la discussion pour qu'on passe au prochain sujet.
Oui.
En disant que ça serait vraiment intéressant de regarder le résultat ou la façon que les communautés racisées vont voter lors des prochaines élections. Le Parti libéral a toujours eu le visage très... tu sais, a toujours donné l'impression que, surtout par rapport au Parti québécois, eux, ils étaient les amis des personnes racisées, des communautés, puis qu'ils étaient de leur bord. J'aimerais voir qu'est-ce qui va se passer aux élections maintenant qu'ils ont pris position par rapport au projet de loi 62 dont on va parler dans
quelques minutes.
Dans quelques chroniques.
Juste un petit commentaire. Vas-y. Le Parti libéral, ben, Philippe Couillard aujourd'hui a annoncé, a dit que l'immigration est un outil économique.
Non, mais c'est clair. Ça, c'est clair. Dans le sens que.
C'est quand même fou, tu sais. Ça révèle la vision que le Parti libéral, qui est soi-disant si proche.
Mais cette vision-là, c'est pas la vision du Parti libéral, c'est la vision de l'État québécois ou canadien. Parce que la façon.
L'État québécois, il est libéral. Ben, c'est un parti. C'est le parti
non, mais avant le Parti libéral, puis après, puis pendant le PQ, puis pendant toutes les autres. Parce que la façon qu'on engage, ben, je veux dire, qu'on accepte les immigrants dans notre territoire est en très, très, très grande majorité fondée sur le pouvoir économique de cette personne, puis la capacité, tu sais, l'impact qu'elle peut avoir sur notre économie.
Oui, l'immigration est discriminatoire à la base.
Oui, puis c'est déjà dit autant par le fédéral que le provincial de pouvoir valoriser l'immigration. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé que dans l'avenir, ça représenterait 1% de la population canadienne viendrait en immigration chaque année.
Bon, ben, ça soulève les passions, cette discussion-là, mais il va falloir passer à la chanson parce qu'après ça, il va falloir passer aux autres chroniques. Donc, on va aller écouter une chanson encore choisie pour son titre. Je suis vraiment désolé. Ça s'appelle Le Régiment des Enfants Sales de l'artiste Zen Bambou sur leur album Juvénile. «
noir, ceci n'est pas une ville pleine de sceaux. Reste que l'argent gagne toujours. Je déplie les doigts d'une liée. C'est pas moi qui va parler, la bouche pleine. Le mensonge bleu, la palette en être bleu. Le régime des enfants sales. Je déclare la guerre. Nous on fait la musique quand ça crèche. Pour des espadrilles.
Vous écoutez la photomédia sur choc.ca. De retour après cette pause musicale, je vois plusieurs de nos chroniqueurs en studio qui remettent rapidement leurs écouteurs parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la chanson finisse maintenant.
C'est assez brusque. C'est comme, assez brusque. Comme chute,
oui. C'était Les Enfants Sales, d'ailleurs, de Zen Bambou. Zen Bambou, vous êtes brusque, mais vous êtes bon aussi. Donc, album juvénile, écoutez ça, ça vaut la peine. Toujours sur le sujet de du racisme systémique, Camilla, toi, tu vas nous parler des militants anti-racisme, des embûches qui se dressent sur le parcours du militantisme antiraciste.
Oui, du militantisme antiraciste en général, puis ça peut aussi, ce que je vais dire peut aussi être approprié pour n'importe quel groupe marginalisé, en fait. Je ne sais pas si vous savez, quand on envoie un communiqué de presse, on l'envoie sur CNW, en général, au Québec. Puis ça, c'est un site, bon, qui relaie tous les communiqués de presse. Puis une facture de CNW peut facilement atteindre les centaines de dollars. On parle de 200, 300, 400 $, 500 $ assez facilement. C'est des grosses sommes pour des organismes qui sont très marginalisés puis qui n'ont pas les moyens d'investir 500 $ dans un communiqué de presse ou 300 $ quand on coupe tout ce qu'on pourrait couper. Ça, additionné au fait que pour passer dans les médias traditionnels, souvent, il faut avoir un réseau très important dans les journalistes. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut sortir de sa poche et dire « Ah, oh, moi, je vais appeler Céline Galipo, tu sais, personnellement, parce que j'ai son numéro de téléphone, puis elle va me passer en entrevue. » Les groupes plus marginaux possèdent pas nécessairement ce bagage-là, mais est-ce que ça veut dire que leur message devrait pas être entendu?
Mais ça, c'est un énorme problème, mais est-ce qu'il existe des solutions pour le contourner?
Au fil du temps, les groupes étudiants, les groupes communautaires ou les militants ont développé des façons de faire alternatives. Moi, je vous propose aujourd'hui de jeter un coup d'œil aux petits frères moins glamour des relations publiques traditionnelles, puis aux éléments à garder en tête pour communiquer de façon alternative.
Mais c'est aussi une question de réseau.
Ben, en général, oui, parce qu'un œil averti et plusieurs études remarquent que le paysage médiatique québécois n'est pas représentatif de sa diversité culturelle en particulier. Non, non, il ne l'est pas. Là, on parle de... On peut facilement regarder ce qui se passe à la télé, mais concentrons-nous sur les journalistes, puis essayons de nommer des journalistes racisés au Québec. C'est ce que je pensais.
Non, mais c'est parce qu'on ne connaît pas tous les noms des journalistes non
et
plus.
Et moi, je ne suis pas bonne avec les noms.
Je pourrais le dessiner quelques-uns.
Patrice Masbourian.
Il y en a. Il y en a, mais ce n'est pas représentatif. C'est ce que je voulais dire.
Bougingo. Oui, Bougingo, c'est un bon exemple.
Non, merci. Suivant.
C'est vraiment pas un bon exemple.
Bon. Pour un groupe composé principalement d'acteurs racisés, avec peu de liens dans ce milieu, il peut se révéler ardu de simplement prendre son téléphone, comme je le disais, puis appeler un journaliste de sa connaissance. Pourquoi? C'est simple. Les réseaux sont simplement pas connectés. C'est vrai pour la majorité des organismes alternatifs, mais... Tu sais, une personne, un militant antiraciste peut avoir un réseau dans sa communauté, peut avoir un réseau, tu sais, de personnes militantes ou peut avoir un réseau dans X, Y, tel milieu, mais elle va pas nécessairement connaître toutes les personnes que quelqu'un qui est dans le milieu syndical très blanc va connaître ou va finir par maîtriser. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est pas hésiter à vous associer avec des groupes d'intérêt ou des organisations qui ont vos luttes à cœur puis qui sont plus gros. Parce que, l'union fait la force, comme on dit. Si ça augmente pas le budget, cette tactique-là, ça va nécessairement augmenter votre force de travail, votre force de production, comme diraient mes amis communistes. N'hésitez pas non plus à utiliser vos propres réseaux pour faire circuler votre nouvelle, ça va de soi, et ne négligez pas les médias alternatifs qui pourraient très bien vous permettre de rejoindre votre public cible, sait-on jamais.
Juste une petite mini-parenthèse là, par rapport à tes amis communistes, ça fait 100 ans, il y a quelques jours, là, la révolution bolchevique en Russie.
La révolution d'octobre qui était en novembre, ouais.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu, mais le press secretary de la Maison Blanche a publié un communiqué décrétant cette journée-là en début novembre comme étant la journée de deuil national pour les victimes des 100 ans de communisme à travers le monde. Je vous jure, on pourra publier ça sur notre page. C'est à vomir.
My God.
J'avais juste envie de leur dire. Oui, puis il y a eu combien de victimes du capitalisme en général?
Non, mais on pourrait faire une belle petite une journée pour l'impérialisme américain qui a sûrement
aussi
fait des centaines de morts à travers différents continents.
Des centaines de milliers.
La journée que j'entends Donald Trump annoncer cette journée-là, je pense que j'ai une crise cardiaque automatiquement.
Non, mais lui, il va avoir une crise cardiaque
avant de le dire, c'est ça.
Il ne dira pas, il va le tweeter.
J'ai une crise cardiaque en 140 caractères. Non, ouais, 280 maintenant, ça vient d'être augmenté.
Oh
là,
non! C'est pas une bonne nouvelle.
Seulement...
J'ai une crise cardiaque.
Le 280 est seulement pour certaines personnes qui ont été choisies, dont Marie-France Bazo, apparemment, au Québec.
Ben
ouais.
Voyons.
Il y a aussi Charles dedans.
Je n'étais pas au courant
de ça. Charles!
On est pour vrai?
Ouais, ouais.
Donc, peut-être que ça... Non.
Donc, Charles, un des collaborateurs à la Photomédia pour les auditeurs qui ne sont pas au courant.
Clairement, un influenceur de masse.
Mais revenons à nos moutons. Donc, Camilla... Ces groupes militants-là, ces groupes alternatifs-là, c'est quoi les moyens qu'ils peuvent utiliser pour se faire entendre à l'extérieur de ces sphères-là plus traditionnelles?
L'idée, quand on n'a pas les moyens d'avoir recours à CNW ou quand on ne peut pas louer une salle pour faire une conférence de presse, anyways, qui fait encore des conférences de presse, c'est de faire avec ce qu'on a.
Moi, je dis que la Photomédia devrait faire une conférence de presse.
Oh, on devrait voir.
Dans les locaux de choc.
Intéressant.
C'est genre juste nos parents qui vont venir.
Et on leur dit, c'est votre faute.
Et encore.
D'ailleurs, j'aimerais saluer ma mère que j'ai convaincue pour la deuxième fois en 2 ans d'écouter l'émission ce soir. Salut, maman.
Et j'aimerais saluer
double succès.
J'aimerais saluer ma mère qui est notre auditrice la plus active sur nos médias sociaux et qui commente presque systématiquement nos publications. Je t'aime, maman.
Merci. Mais d'ailleurs, faire un petit pont. On va utiliser l'intervention d'Émilien pour dire que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de groupes marginalisés qui utilisent les réseaux sociaux pour essayer de se faire entendre. Oui. Sauf que j'ai l'impression que, surtout avec les derniers changements qu'on a eu dans l'algorithme pour les pages Facebook, que ça devient de plus en plus dur pour des groupes de pouvoir utiliser Facebook en tant que tel, comme pour les entreprises, car Facebook essaie de valoriser le viral. Mm-hmm. Donc là, à peu près, maintenant, on calcule que c'est seulement 7% de notre public d'abonnés qui reçoit l'information.
Autrement dit, il faut être populaire pour devenir populaire. Très bien, bien pensé, Facebook.
Facile pour la faute aux médias, mais pas pour les groupes marginalisés.
Ben oui, nous, avec notre audience, 500 000 auditeurs à chaque semaine.
Mais c'est pas de notre faute, on a un influenceur.
C'est ça. Les groupes marginalisés sont présents, comme tu le dis, beaucoup sur les réseaux sociaux, puis ça leur prend des militants, en fait. C'est ça que ça prend. Ça prend des gens qui relaient leur information, puis ça prend des gens qui sont mobilisables. Ça, c'est un grand point positif que les groupes marginalisés ont par rapport aux groupes plus corporatifs, entre parenthèses. Les moyens dépendent juste de l'imagination des gens. Manifestations, coups d'éclat, confettis. On se rappellera les portes ouvertes de l'UQAM il y a un an?
Ah ouais.
Où est-ce qu'il y avait eu des confettis, là? Il y avait eu des confettis pendant des semaines.
Des agents perturbateurs qui se vautrent dans leur amour du chaos, qui ont dérangé un événement aussi, aussi important pour notre vie étudiantine.
Mon point, c'est créer donc la nouvelle. Créer la nouvelle. Pour se faire entendre des médias traditionnels, on fait aussi souvent appel à des porte-paroles connues. En réfléchissant un peu, c'est facile de trouver quelqu'un qui a de la visibilité et qui a votre cause à cœur. Par exemple, je parlais à un organisme de maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Je leur disais, à essayer d'aller approcher une des femmes qui est sortie récemment pour dénoncer des agressions, du harcèlement sexuel. Cette personne est tout oui. Si elle est disponible émotionnellement, puis qu'elle a le temps, je pense que c'est le genre de façon d'aller chercher des gens, tu sais, en essayant de connecter les points entre eux. En somme, mon point, c'est que quand on a peu de moyens financiers, c'est difficile de lésiner sur le temps qu'on investit dans nos démarches communicationnelles. Cependant, il ne faut pas baisser les bras. Si vous n'avez pas un carnet d'adresses digne d'un relationniste de chez National, votre cause n'est pas perdue. Il faudra simplement faire autrement. Bonne chance.
En un mot, solidarité.
Exact.
Ben oui. Mais d'ailleurs, en parlant de solidarité, moi, un des points que je vois beaucoup dans certains organismes, puis vous me direz que c'est juste moi, c'est que on a beaucoup de tendance à refaire les choses, à essayer de réinventer la roue, sans nécessairement savoir déjà qu'est-ce qui se fait dans le milieu, ou quand je pourrais dire de faire tout soi-même, quand on pourrait essayer de bâtir des fois des partenariats ou de s'entraider.
Mais oui, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un prof de mouvements sociaux qui disait que les groupes ont souvent des habitudes en termes de mobilisation. Par exemple, les étudiants, surtout à l'UQAM, sont habitués à faire la grève. Puis la grève, c'est la réaction habituelle des étudiants. Là, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mauvais faire la grève, mais c'est peut-être pas la meilleure attitude dans tous les cas de figure possibles et imaginables qu'un étudiant, qu'une association étudiante peut vivre dans sa vie. Là.
Mais on pourrait tous aller en cours masqué pour dénoncer la loi 62, par exemple.
Exemple.
Ah, c'est tellement une bonne
idée. Aussi, c'est grâce à l'imagination que les sittings sont nés aux États-Unis. Telsi, tu sais peut-être mieux, moi j'ai oublié le nom, mais dans le fond, c'est quand on interdisait aux Afro-Américains de s'asseoir aux mêmes tables que les Blancs aux États-Unis, il y en a qui ont dit « Non, je vais m'asseoir. » Puis, ils ont « sit in » le restaurant. Puis, ils ont refusé de bouger. Puis, de là est née cette habitude de juste s'asseoir à des endroits puis les posséder.
C'était dans les bars aussi où les Afro-Américains étaient interdits d'entrer. Là, ils rentraient quand même dans le bar puis ils s'asseyaient dans le bar.
Ouais. Puis, on voit que ça a été réutilisé à l'UQAM récemment par rapport aux heures d'ouverture des bibliothèques.
Oui.
C'est
exact.
Vrai, c'est vrai. Puis je voulais vous parler en terminant aussi de, justement, pour faire le lien avec ce dont on parle aujourd'hui, la grande manifestation contre la haine et le racisme qui va avoir lieu demain, samedi.
Ce dimanche.
Non, dimanche.
Ce dimanche.
Ah, on est vendredi. Donc, dimanche le 12. Le 12 à 14h à la place Émilie-Gamelin. On attend pas mal de gens, puis je sais pas si c'est moi qui ai exactement leur public cible, mais j'arrête pas de voir leurs affiches partout. Ils ont placardé Montréal.
Est-ce qu'on sait qui organise la manifestation?
Ou ah, s'il y a plusieurs... ça c'est intéressant. C'est toutes les communications de cette manifestation-là sont signées le comité organisateur de la manifestation du 12 novembre. Je pense que il y a eu l'intention de pas personnaliser quoi que ce soit, mais si on regarde la liste des signataires, il y a plus de 130 d'ailleurs, plus de 130 organisations qui ont signé. On parle d'associations étudiantes, groupes communautaires, mais il y a aussi...
La Fédération des femmes du Québec.
Exact. Puis, par exemple, des groupes comme Alternative. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, par rapport à la Fédération des femmes du Québec, c'est que, justement, tantôt, je disais, l'union fait la force. Ben, quand ils ont fait une conférence de presse, ce groupe-là, ben, ils en ont fait une, premièrement, mais justement, tu sais, à la table, il y avait la... co-vice-présidente de l'association, la Fédération des femmes du Québec, il y avait des gens d'Amal Québec, tu sais, les suspects habituels, entre parenthèses, mais qui s'assoient ensemble, puis qui s'entraident finalement, puis qui font front commun.
Oui, tout à fait.
Ben, merci beaucoup, Camilla, pour ces éclaircissements. Donc, on vous attend à la marche dimanche, oui, place Émile Gamelin. À 14h. Ça, j'imagine, Camilla, c'était Veil de IBI?
Non, c'est une chanson qui n'a absolument aucun rapport.
Ah,
je vais
d'accord.
la changer.
Bon.
Voici. Oh mon Dieu, mais elle est rendue. C'est difficile. Hein?
Okay. C'est très difficile.
Donc, la chanson.
Veil de IBI sur l'album H. Celle-là n'a pas été choisie pour son nom. C'est Camilla qui l'a choisie. Donc,
parce que je l'aime bien gros.
Parfait. Sky she leaves now, protecting you night after night. Listen to the lullaby every time life seems too hard. Close your eyes, just close your eyes. Voices will hug you, music will be your arms. The star will shine and enlighten your mind. You a loved little girl you are. I bet you'll be stronger when the day is far. Why you know me?
Why you, why you love me, oh?
Vous écoutiez Veil de IBI sur leur album H.
H Ketchum, attrapez les tous.
Donc,
D'accord, Emilia.
Emilia est fatiguée. Wow. Je suis vraiment
fatiguée. Ça, fatiguée là,
c'est ça... vraiment juste de la fatigue, je m'excuse. Donc, troisième et dernière chronique, mais non la moindre. Myriam Bernet, tu vas nous parler d'orientalisme. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça?
Je
l'orientalisme.
Je savais que tu allais dire ça. Je t'ai persuadée que tu allais dire ça.
Ça ne goûte pas les egg rolls.
Apparemment, non. Donc,
mais est-ce que ça se mange avec des baguettes? Non, là, on va beaucoup trop loin.
Là, justement,
là,
attention,
ça
là, c'est non.
C'est de l'orientalisme. Aujourd'hui, en l'honneur de notre émission sur le thème du racisme systémique, je voulais vous parler donc de deux concepts, en fait, l'orientalisme et l'occidentalisme. Et pour ce faire, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se baser sur l'analyse d'une autrice. En effet, pendant un de mes cours au bac, j'ai eu à lire le texte « Orientalisme, occidentalisme et contrôle des femmes » écrit par une autrice qui s'appelle Laura Nader et qui s'intéresse entre autres au processus de contrôle social et culturel, ce qui fait pas mal écho à notre thème du jour, j'ai l'impression. Dans ce texte, elle explique l'impact des comparaisons culturelles entre les femmes en Orient et en Occident avec pour cadre la construction du genre. Et elle amène la question suivante, comment certaines affirmations portées à l'endroit de certaines femmes dans une société donnée peuvent porter atteinte aux femmes d'une autre société ? Elle part alors du principe que la pensée occidentale sur les femmes au Proche et Moyen-Orient et la pensée des pays non occidentaux, dans le texte nommé comme pays arabes, sur les femmes en Occident, accentue les inégalités entre femmes et hommes dans l'ensemble du globe.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, Myriam?
Oui, ça vient dans la suite de la chronique.
Ok, parce que je me perds un peu, là. C'est, ouais.
Non, ça va être plus clair. Donc, en effet, ces croyances envers les autres femmes et les conséquences qui en découlent cacheraient les réels problèmes que pose le patriarcat dans l'ensemble des sociétés. Pour expliquer cela, c'est là que ça va devenir plus clair, elle expose plusieurs arguments que je trouve pas mal pertinents et en lien direct avec nos discussions d'aujourd'hui. Dans un premier temps, la critique de l'autre, entre guillemets, peut servir d'outil de contrôle et ainsi l'image renvoyée des femmes d'une culture différente peut servir à contrôler les femmes dans sa propre société. En effet, comme le relevait si bien Ruth Benedict, les distinctions entre notre groupe et les étrangers renforcent l'autorité morale à l'intérieur du groupe. Laura Nader s'inspire aussi de la grille d'analyse proposée par Edward Said, qui est un précurseur dans les études postcoloniales et notamment sur l'orientalisme et l'occidentalisme, pour expliquer que ces deux mouvements servent tous deux à imposer une structure patriarcale, même s'ils opèrent différemment, il s'agit tout de même du même projet de subordination des femmes. Et donc, comment ça s'opère? En gros, pour vous expliquer avec quelques exemples, il y a d'un côté plusieurs pays du Proche et Moyen-Orient qui utilisent certains de leurs médias pour annoncer de terribles nouvelles occidentales et qui se basent sur celles-ci pour tenir un discours selon lequel la religion leur permet de ne pas dériver comme l'Occident. De l'autre côté, l'Occident accuse les pays arabes d'encaisser un retard important sur les civilisations occidentales alors qu'ils ont été avant-gardistes sur plusieurs points concernant les femmes. Pour vous donner quelques exemples tirés du texte, Laura Nader relate par exemple que la faculté de droit de l'université de Khartoum au Soudan a nommé sa première femme professeure de droit avant la faculté de droit de Harvard et en 1980, l'université de Rabat au Maroc comptait à peu près 38% de femmes universitaires avec un salaire égal et des droits liés à la maternité, chose qui n'existait pas vraiment dans beaucoup d'universités américaines.
Blam, 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 j'aime ce que j'entends.
Mais donc, dans le fond, dans le propos qu'on rapporte, on utilise le propos qu'on rapporte pour choisir les histoires pour que ça avance notre agenda, avance notre idée idéologique.
T'as tout à fait
compris. Puis, dans le fond, on instrumentalise les femmes pour dire « Hey, on est meilleur que vous ».
Exactement.
OK.
Et pour aller plus loin, il y a cette idée de la femme soumise en tant qu'objet sexuel qui est utilisée dans plusieurs pays musulmans. Et à l'inverse, la femme arabe est vue comme complètement soumise à la religion et à son mari. Bien sûr, ce sont des généralités qui permettent justement de grossir le trait de ces clichés. Parce que dans tous les cas, on enlève toute agentivité aux femmes, où qu'elles soient dans le monde, surtout alors qu'au Proche et au Moyen-Orient ou en Occident, ce sont les hommes qui contrôlent les appareils gouvernementaux et les femmes qui sont davantage touchées par des situations précaires. Ces comparaisons nous permettent donc de comprendre le fait que l'opposition Orient-Occident ne fait qu'exacerber toutes les formes de domination masculine et que d'où qu'elles viennent, ce sont les femmes qui en subissent les conséquences. Et à ce propos-là, Il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps. On va parler de la loi 62. Marie, il me semble que tu voulais en dire quelque chose.
Oui, en fait, je ne sais pas si on avait le temps, mais on voulait un petit peu recadrer, parce qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps, à savoir, je pense que dans les médias, qu'est-ce qu'on voit beaucoup, c'est « Ah, il y a des femmes avec la burqa qui ne pourront plus prendre l'autobus ». Mais c'est quand même plus compliqué que ça. Ce n'est pas ça qui est écrit dans la loi directement. Mais c'est un peu ça que ça finit par faire quand même. Donc, le projet de loi 62... Son beau petit nom, qui prend trois lignes, c'est la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les démarches d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes. C'est un beau long nom pour dire que avant, en fait, c'était entre autres pour faire que chaque individu intervenant dans des organismes doit exercer ses fonctions avec le visage découvert. Mais, petite passe-passe, c'est aussi pour dire que les gens qui reçoivent ce service dans certains organismes doivent aussi le faire à visage découvert. Donc, on parle de ministère, agence publique. Donc, vraiment, c'est un peu ça la base de la loi 62. Et je pense que ça a suscité pas mal de réactions dans l'équipe, mais aussi à travers le monde. Moi, de mon côté, comment j'ai analysé un peu la situation pour les médias francophones, on en parle beaucoup sur un terme de sécurité, de protection, mm-hmm. de communication. Ah, mais qu'est-ce qu'elle cache derrière sa burqa ou derrière son niqab? Il y a peut-être une personne qui n'avait pas vraiment à payer son tarif de la STM. Elle pourrait rentrer illégalement. Donc, c'est pas mal ça qu'on entend beaucoup sur la population, mais de façon très intéressante, du côté anglophone, des Canadiens anglophones, on n'entend pas du tout cet aspect-là.
Surprise, surprise!
Oui, on entend beaucoup l'aspect, en tout cas, du racisme dans tous les panels d'experts que j'ai entendus ces derniers temps à CBC, que ce soit des gens représentant le Parti néo-démocrate, le Parti libéral, le Parti conservateur, on targuait vraiment le Québec de racisme. Oui, il faudrait quand même l'inscrire dans une grande perspective du fait de la Charte des valeurs, du fait que, en tant que tel, par la préservation de la loi de la langue française, les anglophones ont beaucoup instrumentalisé le Québec pour dire que c'était raciste par rapport au fait de vouloir conserver la langue française, mais des fois, on sait qu'il y a des petites méthodes qui sont plus bonnes que d'autres. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, le Canada anglais n'est pas tout le monde n'est pas en train de comme vouer un culte au multiculturalisme. Si on regarde les sondages qui ont été faits dans la population, quand même plus que la moitié, 68% de la population est pour la loi 62. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir pour ou contre. Et comme on sait un peu, c'est une tendance un peu électoraliste d'essayer de dire « voici cette loi, on va affirmer un vrai problème alors que c'est pas nécessairement un problème, que ça couvre seulement 3% de la population ». Et en plus...
Le visage couvert?
Oui.
Non,
3% des femmes musulmanes, en fait.
C'est ça que je me disais. Il n'y a pas 3%
okay.
des...
Mais en fait, ça couvre toute la population, sauf que qui est-ce que ça l'affecte vraiment? Si on y pense... Moi, une des réflexions que j'ai beaucoup, c'est que souvent, on va essayer de nous dire qu'une loi est objective, elle s'applique à tout le monde et que tout le monde doit se conformer à la loi. Sauf qu'on s'entend qu'il y a des lois qui affectent des personnes plus que d'autres. Et c'est vraiment à travers l'analyse qu'on en fait, l'analyse genrée, l'analyse intersectionnelle, qu'on peut voir qu'il y a vraiment des perspectives qui varient selon ton identité propre et la loi va pas t'affecter de la même façon. Et cette loi-là, quand on l'analyse, elle affecte directement ce groupe de population marginalisée. Même si en tant que tel, on peut entendre de la part de notre ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, que la loi s'applique autant au voile intégral, que ce soit la burqa ou le niqab, qu'à la cagoule ou au verre fumé. Moi, je tiendrais à dire quand même que si la loi était vraiment juste pour le visage découvert, on l'aurait pas appelée la loi sur la neutralité religieuse encadrant des organismes avec plein d'autres mots à l'intérieur.
Exactement.
Donc, tu sais, c'est pas juste une question de cagoule en hiver ou de foulard ou de verre fumé, tu sais.
Tu m'avais parlé tout à l'heure d'autres types de lois qui défavorisaient les femmes.
Oui, en fait, le parallèle que je t'ai fait tantôt hors d'onde, c'est quand on pense aux lois sur l'austérité. Quand on parlait de plusieurs lois sur l'austérité, comment ça affectait beaucoup plus les femmes que les hommes. La loi, techniquement, on l'a dit neutre, on l'a dit objective, mais quand on l'avait vu à travers l'analyse genrée qu'avait faite Aurélie Langteau dans son essai « Les libéraux n'aiment pas les femmes », on voyait carrément que les lois affectaient plus les femmes selon lesquelles c'était, par exemple, le cas des infirmières versus les médecins, que... on peut pas se dissocier qu'une société est genrée et qu'un effet va être différent. C'est la même chose dans cette loi-là par rapport à la diversité religieuse. On vient attaquer un groupe directement de la population Et finalement, on fait une loi directement pour ce groupe-là qui est minime, qui encache des frais et qui fait un voile politique pendant qu'on fait plein, plein d'autres choses. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment mettre notre temps là-dessus? En plus, quand la loi va être sûrement contestée devant la Cour supérieure et que des villes comme Montréal disent ne pas vouloir appliquer la loi.
Moi, c'est vraiment... Tu sais, si on analyse comment le Parti libéral, comment le gouvernement en place ne défend pas ce dossier-là de cette manière-là, il laisse totalement fuiter le fait que, oui, ben, tu sais, justement, tu parlais de la ministre qui expliquait que ça s'applique autant aux lunettes fumées qu'à la cagoule ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression qu'il y a un travail pédagogique qui est fait en arrière pour expliquer cette loi-là. C'est peut-être aussi, encore une fois, un calcul politique. Puis justement, cette loi-là ne tiendra jamais devant les tribunaux, c'est sûr et certain, mais d'ici là, ils vont quand même faire du capital politique là-dessus. Harper l'avait fait, si je me trompe pas, en 2011, sur une question de règlement durant la sermentation, alors que c'était d'emblée, c'était foutu pour lui, mais il l'avait fait pour les élections. Ça s'est déjà vu, alors les libéraux, je crois que...
Oui, je pense même que c'était aux élections de 2015, non?
Oui, aux élections de 2015.
C'est ça, ouais.
Exact.
Ouais, ouais. Aux élections en 2015. Et tu sais, on fait beaucoup appel à la question des chartes de droits et libertés, mais il faudrait quand même se rappeler que même s'il peut avoir des exceptions, la charte des droits et libertés est là pour protéger les droits de tout le monde, les droits de la religion, et qu'elle est là jusqu'à temps qu'on enfreigne la liberté de l'autre, et que tant qu'on ne fait pas la démonstration qu'il y a une liberté qui est brimée de la part de la majorité de la population lorsque quelqu'un d'autre porte le voile intégral ou le visage couvert, il va falloir qu'on fasse la démonstration que ça a un impact, sinon cette loi-là n'a pas de raison d'être.
Surtout que même, elle va un peu plus loin que ce que beaucoup de personnes au Parti libéral même voulaient que ça aille. Là. Le fait d'interdire le voile intégral au moment d'offrir ou de recevoir des services dans des organismes gouvernementaux, c'était déjà...
En fait, c'était déjà le cas pour les prestataires de services. Maintenant, on l'inclut pour les personnes qui reçoivent le service.
Et même dans certains aspects de la vie publique, donc là, elle va pas mal plus loin que...
Oui, puis c'est un mal pour un bien dans leur cas, parce que c'est un calcul électoraliste, parce qu'on voit une augmentation du vote de la CAQ, une augmentation du PQ, et tous les partis, en fait, le vote de la CAQ, le nationaliste identitaire, et chacun des partis va essayer de se rafler ces votes-là. Et même à l'extérieur, on dit la loi du Parti libéral, elle est raciste, elle est de base, mais les autres partis veulent qu'elle aille encore plus loin. Donc on voit quand même qu'il y a une opposition dans l'autre parti du Canada. Puis c'est intéressant de voir que...
Plusieurs autres partis veulent qu'elle aille plus loin, mais pas tous les partis.
Ah ouais, il faudrait faire l'exception de Québec solidaire, en effet.
Merci bien.
Donc le Parti québécois et la CAQ veulent que ça aille plus loin, et Québec solidaire est contre ça. Merci de la rectification, Camilla.
Ça va être un débat pour peut-être une autre émission, parce qu'on sent qu'il y a des questions qui sont pas réglées, puis on aimerait en parler davantage.
Si je peux glisser un mot, là, on parle beaucoup de droits individuels, mais il y a aussi toute une manière de regarder ça de façon collective, puis de penser les minorités religieuses et culturelles dans la collectivité, puis commencer à parler du « nous » au lieu du « eux ». Du E.
C'est ça. Oui. C'est ça, on voit.
Sur ces paroles de sagesse, Camilla, va falloir qu'on conclue.
Ouais, on parle du nous.
On parle du nous, on conclut. Donc, Marie Chabot-Johnson, Étienne Tardy-Paradis, Camilla Rodriguez, Siat, Tessie Jean-Paul, Myriam Bernin, c'est Camilla Roscanou à la photo média. On écoute une petite chanson en se quittant. Ruby de Scissors. C'est comme des ciseaux, mais mal orthographiés. Ouais. Je pense qu'ils se sont trompés. sur leur album Within Unknown.
Still need